Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, Au fil des pages évoque aujourd'hui la figure oubliée, pour ne pas dire méconnue, d'un humaniste, d'un exégète biblique, d'un commentateur champenois du Moyen-Âge, mort en 1105. On célèbre donc officiellement de manière nationale le 900e anniversaire de sa mort. Je veux parler de Rachi de Troyes. Et pour évoquer cette grande figure juive, j'ai le plaisir de recevoir le rabbin Haïm Korsia, aumônier général israélite de l'armée de l'air, secrétaire général de l'association du rabbinat français et directeur du cabinet du grand rabbin de France. Monsieur Citruc, Haïm Korsia, bonjour.
Bonjour.
On vous doit pour célébrer Rachi un petit livre, petit par l'épaisseur, mais fort intéressant par tout ce qu'on apprend. Hommage à Rachi, 1040-1105, commentateur champenois du Moyen-Âge. Alors, ce Rachi, Haïm Korsia, qui est-ce ?
C'est un rabbin qui s'appelle Rabbi Salomon, fils d'Isaac. Et en hébreu, les initiales font Rabbi Ra. Salomon, c'est Shlomo. Et Yitzhak, c'est Yitzhak, I. Ça fait Rachi.
Ah voilà, c'est une condensation
on l'appelle Rachi. Et ce rabbin est un rabbin assez extraordinaire parce qu'il arrive à une époque extraordinaire et il fait une forme de révolution dans les commentaires de la Bible. Et c'est, je crois, enfin, vous avez remarqué que en janvier 2005, donc, la Poste a fait un timbre à son rappelant son souvenir, parce qu'on ne peut pas
voilà,
dire à son effigie.
Voilà, on vous doit ce timbre aussi. Je crois que c'est vous qui avez initié les choses. Un timbre, est-ce que c'est la première fois qu'il y a timbre à un rabbin?
Alors, c'est la première fois qu'il y a un timbre qui rend hommage à un rabbin, mais ce n'est pas le premier timbre à l'effigie d'un rabbin, puisqu'on n'a pas de photo de Rachi.
Ah non, bien sûr, c'est dessiné.
Il se trouve qu'à la fin de l'année 2005, il y aura un autre timbre à l'effigie d'un rabbin, et ça sera la première fois qu'il y aura un timbre à l'effigie d'un rabbin, un académicien d'ailleurs. Puisqu'il s'agira du timbre en hommage au grand Romain Kaplan qui était membre de l'Institut.
Voilà, absolument. Alors, Haïm Korsia, vous dites que Rachi, c'est un grand du judaïsme, mais c'est également un grand français et qu'en effet, il vit à une époque, alors qu'on va resituer rapidement. Comme il est né en 1040, c'est sous le règne du roi Henri Ier de France, le fils de Robert le Pieux. Bon, j'ai quand même pris des notes, vous avez vu. Et puis, en fait, il connaît essentiellement le roi Philippe Ier de France, il connaît 13 papes, sous lesquels, enfin il ne les connaît pas, mais il passe 13 papes pendant sa vie. Et puis, le plus connu de ces papes, c'est Urbain II, qui est également un champenois, c'est le premier pape français. C'est Urbain II qui prêche donc la première croisade. Ça, c'est pour situer Rachi. Donc, Rachi entend parler des croisades, évidemment. Mais vous dites aussi qu'il vit à cette époque de spiritualité qui est à la fois une grande époque pour le christianisme et une grande époque pour le judaïsme. En quoi est-il exceptionnel, ce maître ?
C'est que d'abord, il est inscrit dans la vie autour de lui. Certains disent qu'il était vigneron, d'autres contestent le fait qu'il était vigneron, mais en fait, il connaît parfaitement la réalité de tous les métiers dont il parle. C'est-à-dire qu'il n'a pas uniquement une connaissance encyclopédique, il a une connaissance réelle de la vie de ses contemporains. Il est en échange permanent avec le monde entier, dans ce qu'on appelle en hébreu des responsas, c'est-à-dire... Il écrit tellement qu'il crée, en fait, une sorte d'écriture particulière. D'aucuns contestent, les spécialistes contestent le fait qu'il ait vraiment inventé cette écriture. Mais en fait, il a ce qu'on appelle, nous, maintenant, aujourd'hui, plus de 900 ans après, l'écriture Rachi, qui est une écriture condensée, qui permet, en fait, de répondre à un besoin étonnant, qui, pour nous, paraît stupéfiant. Il y a deux choses qui nous paraissent stupéfiantes aujourd'hui. La première, surtout quand on a la chance d'être dans ces studios magnifiques, on voit la Seine en bas de chez nous et on se dit, c'est magnifique, on a autant d'eau qu'on veut. Avant, pour avoir de l'eau, c'était, si j'ose dire, la croix à la bannière. Donc, la facilité pour avoir de l'eau, maintenant, est incompréhensible à l'époque. On n'avait pas de l'eau facilement. La deuxième, pour nous, vous prenez des papiers, vous les rayez, vous écrivez ce que vous voulez, et puis il y a autant de papiers que vous voulez. À l'époque, il n'y a pas de papier.
Oui, ça,
et donc,
c'est sûr.
Il faut écrire. Plus vous écrivez petit, plus vous dites beaucoup de choses avec peu de papier. Et Rachi va inventer une écriture où on écrit petit.
Dense.
Une écriture cursive. Maintenant, Rachi, et c'est en ça que j'estime que c'est un grand français, c'est que Rachi va commenter la Bible et le Talmud. C'est immense. On ne peut pas imaginer ce que c'est de nos jours. Bon, toute la Bible et tout le Talmud. Commentant tout cela, il a besoin parfois, puisqu'il parle à des Français, enfin des champenois en tout cas, il a besoin de leur expliquer des choses plus précisément. Et donc il le fait en bout d'argument, en bout d'explication, par un terme français. Sauf que ce terme français, de l'époque, il l'écrit en hébreu. C'est-à-dire qu'il est un mot français écrit en caractère hébraïque.
Donc il transcrit le français, enfin un certain nombre de mots français en hébreu.
Voilà. Et il se trouve que le champenois de l'époque est la matrice du français actuel. Et la seule source, la seule qu'on ait pour expliquer comment on, et pour dire comment on prononçait les mots dans ce champenois de l'époque, c'est Rachi. Ce qui explique que son nom figure au frontispice de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, ce qui explique que par ses 4722, on appelle ça un la'az, donc c'est gnose, on puisse, dans ces termes, on puisse retrouver des termes français d'aujourd'hui. Et la médaille qui a été faite par les Monet Médailles, vos voisins, les Monet Médailles de Paris, la médaille qui a été faite pour l'occasion, à l'occasion de son 900e anniversaire de sa mort, cette médaille reprend une partie de ces mots qui fondent le français. Donc, il a un apport énorme dans la culture française, la connaissance du français. Maintenant, en termes plus larges, Rachi a servi de base, tous ses commentaires, ont servi de base à Nicolas de Lyre, qui au XIIIe siècle cette fois-ci, donc deux siècles plus tard, a expliqué la Bible pour les chrétiens. Et de Nicolas de Lyre, tous les commentateurs se sont inspirés. Ce qui veut dire que d'une certaine manière,
on est héritier aussi de la pensée, du travail en tout cas de Rachi.
Et je crois que sa spécificité, elle est assez étonnante. C'est toujours les coups de génie sont les coups les plus simples. Il revient au sens littéral du texte.
C'est-à-dire ça, c'est sa méthode révolutionnaire.
Elle est double, en fait, sa méthode. La première, c'est que, si vous voulez, sans parler d'histoire sainte, mais il y a les belles histoires de la Bible, histoire et légende de la Bible, on oublie parfois, ce n'est pas exactement dans le texte. Ça fait donc appel à ce qu'on appelle le Midrash, qui est un commentaire allégorique de la Bible. Lui, l'intègre dans son commentaire. On pourrait dire, un peu rapidement, que Rachi, c'est une anthologie des commentaires allégoriques de la Bible. Mais en même temps, il revient toujours au sens littéral.
Donc il fait à la
fois...
C'est une
quasi-obsession pour lui.
Oui. Donc ça, c'est une méthode, effectivement, d'exégèse. Et donc, on apprend avec lui. Vous ne nous avez pas trop raconté sa vie. Comment a-t-il été formé intellectuellement? Parce qu'à Troyes, donc, il est né à Troyes. Il y avait donc une communauté juive.
Très importante.
Avec une synagogue importante.
Voilà. C'est pas tant la synagogue qui est importante. C'est, je crois... Encore une fois, il faut faire abstraction de la façon qu'on a de vivre maintenant. Qu'est-ce qui était les pôles d'échange à l'époque? C'était les foires.
Les foires champenoises.
Voilà, les grandes foires de Champagne étaient l'épicentre de tous les échanges. Alors les échanges commerciaux, mais les échanges spirituels, intellectuels. Donc Troyes était l'un de ces grands carrefours. Et lui, il était là. Et donc tout passait par, tout ce qui touchait le judaïsme et les commentaires passait par lui. Du monde entier venaient des questions par écrit. Et lui, il répondait. Alors, lui, il a été formé à Worms.
Worms, donc en Allemagne.
C'est frontalier.
C'est frontalier avec l'Allemagne.
Voilà. Et ensuite, il est revenu à Troyes. Il s'est installé à Troyes. Et à partir de lui, il a eu trois filles. Ses filles ont épousé trois rabbins. Et ces rabbins ont fondé l'école des tosafistes qui a essaimé sur l'ensemble de la Champagne large. Vitry-le-François, Ramrupt pour certains. Sachez que, par exemple, dans le monde entier, n'importe quel juif qui prie dans ce qu'on appelle un Marsor Vitry, c'est-à-dire le missel de Vitry. Pourquoi Vitry? C'est-à-dire qu'au fin fond du Venezuela, on prie
on
sur...
On connaît Vitry, c'est formidable.
Et on ne sait pas que c'est Vitry le François. Parce que c'est à Vitry que les descendants de Rachi ont formaté, en quelque sorte, le livre de prière dans lequel nous on prie. Et c'est important de savoir ça. Donc Rachi est l'épicentre de cette grande ouverture du judaïsme français. Il faut savoir que... on pourrait qualifier Troyes et Rachi de la petite Jérusalem de l'époque. C'était juste après, il faut voir cette époque, juste après la grande période babylonienne et jérusalemite, donc de Jérusalem, et l'épicentre du judaïsme se déplace de Babylone et de Jérusalem, où les deux Talmuds ont été faits, à Troyes.
En Champagne,
en France.
Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que Troyes était encore aujourd'hui alors un centre de pèlerinage pour les Juifs qui viennent à la rencontre de Rachi. Et il y a d'ailleurs un institut Rachi que l'on doit à Maurice Libert, je crois. Alors, il faut que vous évoquiez aussi cette grande figure.
Alors, pas exactement. L'institut Rachi a été voulu et pensé par Robert Gallet, qui a été le maire de Troyes et qui a vraiment beaucoup fait pour l'émergence de cet institut qui, à la fois, porte l'enseignement de Rachi, mais aussi est ouvert très largement à toutes les religions pour discuter avant Rashi. Alors, dans l'opuscule dont vous parlez sur Rashi, on a tenu à rendre hommage à Maurice Liber, qui était un grand rabbin.
Vous reproduisez son texte de 1905.
Exactement. Pour le 800e anniversaire de la mort de Rashi, il a fait un texte qui n'a pas pris une ride. Et je crois que les grands...
Ou on sait tout. Après, voilà. On sait tout le Rashi quand on a lu ce texte, c'est vrai.
On sait beaucoup de choses.
Sa vie, sa sagesse, ses études, sa foi. Enfin...
Et puis, permettez-moi de vous dire que le grand rabbin Liber le faisait en 1905 dans un français extraordinaire.
Un français extraordinaire, absolument. Je partage votre point de vue.
Et je trouve que c'est rare, ces textes qui ne prennent pas une ride. Et on a tenu à la fois à rééditer ce texte pour Rashi, mais aussi pour le grand rabbin Liber, qui a été le partenaire permanent du grand rabbin Kaplan, à la fois pendant la guerre, mais aussi dans l'évaluation de la reconstruction du judaïsme.
Oui, donc ce livre qu'il faut se procurer si l'on s'intéresse à cette pensée juive du Moyen-Âge, Hommage à Rashi. Ce livre, je vais en dire l'éditeur, parce que ce n'est pas un éditeur très connu, mais ce sont les éditions Pro Arte. Quelle est cette maison d'édition ?
C'est une maison d'édition qui fait beaucoup pour la connaissance, notamment pour les timbres, parce que comme il y avait un timbre sur Rashi, ils sont très spécialisés, mais ils ont fait plusieurs ouvrages sur le Veldiv, tout ce qui se fait autour de la philatélie.
Donc dans ce livre, on trouve un texte de Haïm Korsia, avec lequel j'ai le plaisir de parler aujourd'hui, un texte de Gérard Naon, directeur émérite de l'École pratique des hautes études, section sciences religieuses, qui justement nous explique bien la méthode et tout le contexte historique dans lequel Rashi évolue, donc fin 10e, tout début du 11e siècle, et puis le texte de 1905 du grand rabbin Maurice Liber. Donc je vous encourage, si vous vous intéressez ou si vous ne connaissez pas et que vous souhaitez découvrir Rashi, ce commentateur champenois du Moyen-Âge, à acheter cet ouvrage et à vous le procurer aux éditions Pro Arte à Ivry. À bientôt.
Au revoir. Merci. Merci.